On lit pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
les as de l'info. En Suisse, bientôt des étiquettes de souffrance animale sur la viande. Un texte de Mélanie Loubert, paru le 10 juin 2025 dans les As de l'Info. À partir du 1er juillet, en Suisse, un pays en Europe, les emballages de viande devront indiquer si l'animal a souffert avant d'être abattu. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi faire ça? Je t'explique. Cette nouvelle réglementation s'appliquera aux emballages de viande, d'œufs et de foie gras. Le gouvernement suisse a publié une liste de pratiques qui sont considérées comme douloureuses pour l'animal, surtout si elles sont faites sans médicaments. Par exemple, couper le bec d'un poulet ou les cornes d'une vache sans anesthésie. À partir du 1er juillet, si les fermes de poulets, de bœufs ou de cochons, par exemple, ont recours à ces pratiques-là, elles devront obligatoirement l'indiquer sur l'emballage de leurs produits. Cette réglementation s'appliquera autant dans les magasins qu'aux restaurants. Pourquoi? C'est pour que les consommateurs, comme toi et tes parents, puissent le savoir. Quand on sait qu'un animal a souffert, on risque d'avoir moins envie d'acheter sa viande et d'encourager cette entreprise. Les consommateurs suisses pourraient se tourner vers un producteur qui ne fait pas souffrir ses animaux ou acheter des produits végétaux à la place. Cette nouvelle réglementation pourrait pousser les élevages à mieux traiter les animaux. Car si plus personne ne veut acheter leur viande à cause de ce qui est écrit sur l'emballage, ce n'est pas bon pour les affaires. Comment ça se passe au Canada? Ça risque de te surprendre, mais avant 2015, au Québec, les animaux étaient considérés comme des meubles. Depuis, heureusement, ils sont reconnus comme des êtres doués de sensibilité, ce qui a permis de créer certains règlements pour interdire qu'ils souffrent inutilement. De manière générale au Canada, il existe des lois et recommandations sur la souffrance animale, mais elles ne sont pas aussi strictes que celles adoptées en Suisse, et plusieurs pratiques douloureuses sont encore tolérées. Peut-être que la Suisse, qui est l'un des pays les plus avancés au sujet des droits des animaux, peut nous apprendre quelques leçons. Aimerais-tu qu'au Canada aussi, ce soit obligatoire d'afficher sur les étiquettes si les animaux ont souffert? Premier arrêt, le Labrador. Un texte de Lisbeth Cernet, paru le 8 juin 2025 dans les As de l'Info. Lisbeth Cernet est journaliste. Elle s'est lancée dans un grand voyage en solo à travers le Canada. Sur sa route, elle rencontre des jeunes de ton âge et elle va visiter leur lieu coup de cœur. Suis-la tous les dimanches dans sa quête. Premier arrêt, le Labrador. Le 27 avril dernier, à 3h35 du matin, j'ai quitté la ville de Montréal pour entamer mon grand voyage. Quinze heures plus tard, et après avoir parcouru presque 1300 km de route, je suis arrivé à Labrador City, dans la province de Terre-Neuve et Labrador. C'est là que j'ai visité la première école de mon expédition et que j'ai rencontré Anne-Rose Michaud, une élève de 14 ans. Labrador City est seulement à quelques minutes de voiture de la province du Québec. Mais dans les rues, les gens parlent anglais. Anne-Rose fréquente pourtant une école francophone appelée l'Envol. Puisque la plupart des habitants du Labrador parlent anglais, on dit que l'école est en milieu minoritaire. Beaucoup de gens déménagent à Labrador City pour travailler dans les mines. La directrice, Chloé Tinkler, m'explique que ces personnes restent quelques années puis elles repartent. Cela fait en sorte que l'école a beaucoup d'élèves en prématernelle et très peu en dernière année. De plus, certains élèves choisissent de quitter à la 8e année, à 13 ans, pour fréquenter une école anglophone. Résultat, parfois, aucun élève ne se rend en dernière année et personne n'obtient son diplôme à l'Envol. Mais les choses changent. Pour la première fois cette année, il y a 3 élèves qui vont recevoir leur diplôme à notre école, me dit fièrement la directrice. L'endroit coup de cœur d'Anne-Rose. Quand j'ai demandé à Anne-Rose quel était son endroit préféré, elle m'a répondu « l'Association francophone du Labrador ». Sans faire ni une ni deux, je suis allé découvrir l'association. Lors de ma visite, 3 jeunes francophones sont passés. Les responsables me confirment que beaucoup de jeunes fréquentent ce lieu. Ce qui aide, c'est qu'il n'y a pas d'âge minimum pour fréquenter cet endroit, car c'est un des rares lieux de divertissement pour les francophones dans la région. Après Labrador City, direction Happy Valley Goose Bay. Prochain arrêt, l'école boréale. J'y ai rencontré Jack Woolman, qui a 11 ans. Il m'a parlé de sa grande passion pour le soccer, un sport qu'il pratique depuis ses 4 ans. Il aime le fait que son école lui permette d'aller souvent à l'extérieur. En plus, puisque son école n'a pas de gymnase, elle offre un abonnement dans un centre d'entraînement à tous les enfants. Les rêves de Jack sont grands, et son école l'aide à les réaliser. La directrice, Nancy Boutin, connaît chacun de ses 23 élèves ainsi que leurs ambitions. Le petit nombre d'élèves et de professeurs fait en sorte que « nous sommes comme une famille », dit la directrice. L'été dernier, Jack a participé à un camp du Real Madrid à Ottawa. Sur la centaine d'enfants présents, il a été un de ceux sélectionnés pour aller jouer à Madrid, en Espagne. Il joue présentement dans l'équipe provinciale et il espère être sélectionné pour les Jeux du Canada en 2029. Sans surprise, l'endroit préféré de Jack, c'est le terrain de soccer de sa ville. La semaine prochaine, Lisberte nous fera visiter Terre-Neuve. Pour ou contre, accepter les animaux dans tous les appartements. Un texte de Caroline Bouffard, paru le 9 juin 2025 dans Les As de l'Info. Le 25 mai, une manifestation a eu lieu à Montréal pour demander que les animaux de compagnie soient acceptés dans tous les logements du Québec. Les manifestants demandent au gouvernement de changer la loi qui permet aux propriétaires de les interdire. Chaque été, lors de la période des déménagements, des centaines d'animaux sont abandonnés en raison de cette loi. Les propriétaires, eux, disent que c'est à eux de décider ce qu'ils acceptent ou pas dans leur logement. Qu'en penses-tu, toi? Voyons les arguments pour et contre d'accepter les animaux dans tous les appartements. 2 définitions pour bien comprendre. Le propriétaire. C'est la personne qui possède un immeuble avec des appartements. Elle les loue à des gens, les locataires, contre de l'argent, le loyer. Le propriétaire peut mettre des conditions, par exemple, pas le droit de fumer, pas le droit d'animaux ou obligation de repeindre les murs en blanc avant de quitter l'appartement, si le locataire a mis de la couleur. Le locataire, c'est la personne qui habite un appartement qui ne lui appartient pas. Elle donne de l'argent, un loyer, au propriétaire pour y vivre. Si le locataire ne respecte pas les conditions du propriétaire ou qu'il ne paie pas son loyer, il peut être expulsé. Les pour. Les animaux font partie de la famille. Savais-tu qu'avant 2015, les animaux de compagnie étaient considérés comme des meubles selon la loi au Québec? Ce n'est plus le cas, heureusement. La loi les reconnaît maintenant comme des êtres doués de sensibilité. Nos chiens, nos chats sont choisis et aimés. Ils font partie de la famille. C'est cruel d'être forcé de les abandonner parce qu'ils sont interdits dans notre nouvel appartement. Il y aurait moins d'abandon. Si les animaux étaient acceptés dans tous les appartements, il y aurait beaucoup moins d'abandon. Selon la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux, SPCA de Montréal, la moitié des familles québécoises ont un animal de compagnie. Mais seulement 4% des propriétaires acceptent les chiens. Avec la rareté des logements, certaines familles sont obligées de donner leur toutou en adoption. Les refuges, comme la SPCA, débordent et 2025 s'annonce comme la pire année pour les abandons depuis 5 ans. Ils sont bons pour la santé mentale. C'est prouvé. Les animaux aident à réduire l'anxiété. Les personnes âgées qui ont un animal de compagnie se portent mieux. En prime, si les animaux étaient acceptés dans tous les appartements, cela enlèverait un stress immense aux familles qui doivent déménager. C'est déjà très difficile de trouver un logement à bon prix. Avec un animal, c'est pire. Les contre. Les propriétaires sont chez eux. Un immeuble à logement appartient à un propriétaire. C'est lui ou elle qui a acheté l'édifice et qui paie pour son entretien. C'est bien normal que cette personne décide des conditions et des règles quand elle loue un appartement à quelqu'un. C'est chez elle, après tout. Les animaux peuvent causer des problèmes. Odeur de litière, poils, jappements à n'importe quelle heure, marques de griffes sur les cadres de portes ou les planchers. Les animaux peuvent causer des dommages au logement. Normal que des propriétaires ne veulent pas devoir gérer ce genre de problème. Les animaux peuvent aussi déranger les voisins, qui, eux, n'ont pas choisi d'avoir un animal. Les appartements ne sont pas tous adéquats. Certains appartements ne sont tout simplement pas de bons milieux de vie pour des animaux, comme des chiens de grande taille qui ont besoin de courir beaucoup. Est-ce qu'il faudrait donner à n'importe qui le droit d'aménager dans un petit logement de 3 pièces au 15e étage d'une tour avec un gros chien comme un Danois? Toi, es-tu pour ou contre accepter les animaux dans tous les appartements? Pas de réseaux sociaux avant 14 ans. Un texte de Camille Lopez, paru le 7 juin 2025 dans les As de l'Info. Pas de réseaux sociaux avant 14 ans. Téléphone, ordi, console. Trouves-tu que ces appareils occupent une trop grosse place dans ta vie? Beaucoup d'adultes croient que oui. Alors, pendant près d'un an, des députés québécois ont étudié l'impact des écrans et des réseaux sociaux sur la santé des jeunes. Le 29 mai, ils ont publié un rapport avec plus de 50 recommandations destinées au gouvernement du Québec. En voici 4 qui te concernent. 1. Pas de réseaux sociaux avant 14 ans. On trouve de tout sur les réseaux sociaux. Ça a du beau, puisque ça te permet de socialiser, t'exprimer, rigoler. Mais ça comporte aussi du négatif, comme l'intimidation, le contenu violent et les défis dangereux. Le rapport recommande au gouvernement du Québec d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 14 ans. En ce moment, c'est les plateformes qui fixent l'âge minimum. Et c'est souvent 13 ans. Dans la province, c'est à 14 ans qu'on peut prendre plein de décisions importantes, comme accepter des soins de santé et travailler. 2. Pas d'écran avant le dodo ou dans ta chambre. Regarder des écrans à l'heure du coucher peut t'empêcher de bien dormir. Ça retarde l'heure du dodo et ça perturbe la production d'une hormone qui favorise le sommeil. Et mal dormir peut faire du tort à la santé, à l'humeur et à l'attention. Le rapport encourage les parents à imposer plus de règles à la maison, comme interdire les écrans dans la chambre et fixer une heure limite le soir pour fermer les écrans. 3. Interdire les microtransactions. Une microtransaction, c'est un achat qu'on fait avec notre vrai argent lorsqu'on joue à un jeu vidéo. On peut payer, par exemple, pour des skins, vêtements, personnages, etc., et des boosters qui améliorent notre performance. Parfois, c'est le hasard qui détermine ce qu'on obtient. Ça ne coûte pas cher, mais les jeux sont faits pour qu'on achète beaucoup et souvent. En fait, on peut même y devenir accro. Alors, le rapport demande l'interdiction des microtransactions dans les jeux vidéo faits pour les jeunes. 4. Pas de film comme récompense à l'école. Plusieurs profs ont l'habitude de récompenser leurs élèves en présentant un film ou en leur permettant de jouer à des jeux sur leur tablette. Mais selon des experts, il faudrait limiter cette pratique. La raison? Elle peut te donner l'impression que les écrans sont un meilleur cadeau que d'autres activités. Ils recommandent d'utiliser ce temps libre pour faire du sport ou lire, par exemple. Et toi, si tu avais à faire une recommandation sur l'usage des écrans, que serait-elle? Mickey, aux Émirats arabes unis, bonne ou mauvaise idée? Un texte de Nathaniel Bronner, paru le 10 juin 2025 dans les As de l'Info. Après Orlando, Paris et Tokyo, Disney va ouvrir un nouveau parc d'attractions aux Émirats arabes unis. Mais cette décision dérange car ce pays du Moyen-Orient ne respecte pas toujours les droits de la personne. J'ai demandé l'avis d'Amnesty International. Quel est le projet? Prévu d'ici quelques années, le parc d'attractions des Émirats ressemblera à ceux que Disney a déjà, avec des restaurants, des hôtels et des boutiques. D'après Robert Iger, le patron de Disney, le parc va mélanger les histoires et les personnages formidables de Disney avec la culture et le goût de ce pays et de cette région. Le coût du projet risque d'être astronomique. Plus de 5,5 milliards de dollars. La réaction du public. Ce qui dérange, c'est la mauvaise note des Émirats arabes unis au niveau des droits humains. Dans ce pays, l'homosexualité est illégale et même punie par la prison. Pourtant, Disney a souvent défendu la communauté LGBTQ+, notamment dans une bataille légale en Floride. Pour plusieurs internautes, Disney ne peut pas s'associer à un pays qui a des valeurs aussi loin des siennes. Sous la publication Instagram de Disney, qui annonçait le nouveau parc, une utilisatrice a commenté « Tant de gens ne sont pas les bienvenus dans ce pays à cause de leur homosexualité, alors comment ce nouveau parc pourrait-il être aussi magique que les autres ?» Des travailleurs exploités. Ce n'est pas le seul problème. France-Isabelle Langlois est la directrice d'Amnesty International au Canada francophone. Elle m'a expliqué que la population des Émirats arabes unis est riche à cause du pétrole. Ce sont des immigrants, souvent venus d'Asie, qui travaillent en construction. Imagine, ces travailleurs étrangers sont 8,8 millions, alors que la population totale du pays est de 11 millions. Selon Mme Langlois, tout porte à croire que le parc Disney sera construit dans de mauvaises conditions pour les travailleurs. Longues heures à la grosse chaleur, sans suffisamment d'eau et pour un salaire minuscule. Il n'y a même pas de salaire minimum pour les travailleurs étrangers. L'arrivée de Disney pourrait-elle améliorer la situation? Peut-être que les patrons vont mieux traiter les travailleurs pour plaire aux touristes. La réponse de Mme Langlois était immédiate. Au contraire, à son avis, la venue de touristes montre que le mauvais traitement des employés ne les dérange pas assez pour qu'ils changent leur plan. Créer le changement. D'après elle, il faudrait que le public mette de la pression sur Disney avant la construction du parc. L'objectif serait que la compagnie fasse changer les lois de travail aux Émirats arabes unis. Elle pense que si Disney reçoit assez de pression du public, ça pourrait se produire. Comme les films de Disney nous l'ont montré, tout est possible. Il est une fois le cinéaste qui n'a pas peur de la prison. Un texte de Frédéric Lavoie, paru le 6 juin 2025 dans les As de l'Info. Il est une fois, à notre époque, un cinéaste prêt à risquer sa liberté pour tourner des films. Jafar a grandi dans un quartier pauvre de Téhéran, la capitale de l'Iran, avec ses parents, ses 4 sœurs et ses 2 frères. Un jour, quand il avait 12 ans, des cinéastes amateurs lui ont demandé de jouer un rôle dans leur film. Jafar a adoré son expérience, mais il s'est surtout découvert une passion, le cinéma. À partir de ce moment, il a voulu voir le plus de films possible. Il s'est mis à travailler après l'école et presque tout l'argent qu'il gagnait servait à payer ses billets de cinéma. Jafar avait bien aimé être acteur, être devant la caméra, mais ce qu'il désirait encore plus, c'était un jour se retrouver derrière la caméra pour imaginer lui-même les histoires qui seraient filmées. Dans sa ville, il existait justement une école très particulière où les enfants et les adolescents pouvaient apprendre le cinéma avec de vrais professionnels. C'est là que Jafar a appris à manier une caméra et une perche pour capter le son. Il a aussi pu y tourner ses premiers petits films. Quand il a eu 20 ans, l'Iran est entré en guerre avec son voisin, l'Irak. Comme les autres jeunes hommes de son âge, Jafar a été obligé de devenir soldat, mais plutôt que de se rendre sur les champs de bataille avec un fusil, il y est allé avec une caméra. On lui a demandé de réaliser un film documentaire pour raconter au reste de la population la réalité de la guerre. Revenu de la guerre, Jafar a poursuivi ses études en cinéma. Il est ensuite devenu assistant de l'un des plus grands cinéastes du pays. Puis, Jafar a enfin pu réaliser son premier grand film, qui racontait l'histoire d'une petite fille qui achalait sa mère pour qu'elle lui achète un poisson rouge. Succès immédiat. Jafar a reçu de grands prix à l'étranger qui lui ont permis de continuer à réaliser d'autres films. Mais, quelques années plus tard, Jafar a commencé à avoir des ennuis avec les autorités de son pays. Les chefs religieux au pouvoir n'aimaient pas les histoires que racontait Jafar dans ses films, car Même si ces histoires étaient inventées, elles étaient très proches de la réalité. Et les chefs religieux ne voulaient pas que tout le monde voie cette réalité. Dans un de ces films, par exemple, Jafar raconte l'histoire d'un groupe de jeunes filles qui se déguisent en hommes pour assister à un match de soccer, car la loi religieuse leur interdit de se mêler aux hommes. Un jour, Jafar a été arrêté et jeté en prison. Les autorités l'accusaient de répandre une image négative du pays. Il a été condamné à ne plus pouvoir sortir de chez lui durant plusieurs années et à ne plus pouvoir réaliser de films durant 20 ans. Mais Jafar n'a pas eu peur. Avec un téléphone et une mauvaise caméra, il a tourné un film à l'intérieur de sa maison. Puis, il a transféré son film sur une clé USB qu'il a cachée dans un gâteau, puis envoyée dans un autre pays pour que son œuvre soit diffusée. Encore une fois, ce film a eu un grand succès, en plus de mettre en colère les autorités de son pays. Le titre de ce film, « Ceci n'est pas un film ». Depuis, Jafar continue de vivre sa passion. En fait, les interdictions que lui ont imposées les chefs religieux sont devenues l'une de ses principales sources d'inspiration. Récemment, Jafar a de nouveau passé 7 mois en prison. Quand il en est sorti, il s'est vite remis au travail pour faire un film à partir des histoires qu'il avait entendues derrière les barreaux. Sans autorisation, Jafar et son équipe ont dû faire preuve d'ingéniosité afin d'échapper aux autorités durant le tournage. C'est pourquoi une bonne partie des scènes se déroulait dans des voitures en mouvement. Quand les policiers sont finalement venus les embêter, le film était déjà presque terminé. Et ce nouveau film vient de remporter l'un des plus grands prix du cinéma de la planète. Selon toi, pourquoi certaines personnes sont prêtes à prendre de grands risques pour défendre leurs passions ou leurs idées?
C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines. Merci à toute l'équipe.